Le journal Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Christelle, bonjour à tous. Et à la une, un coup d'accélérateur contre le gaspillage. Dès demain, tous les produits invendus du secteur non alimentaire ne pourront plus être détruits. Les fabricants ont l'obligation de trouver une autre solution. C'est l'un des changements majeurs du 1er janvier. Les premiers concernés sont-ils prêts? On fait le point. Un nouveau réveillon sous restriction, mais sans couvre-feu national. Alors vous l'entendrez, les forces de l'ordre craignent des tensions pour cette nuit de la Saint-Sylvestre. Omicron gâche forcément un peu la fête. Faute de discothèque, certains vont opter ce soir pour le karaoké, reportage à Paris. Au sommaire aussi, des grands classiques du cinéma, toujours censurés à la télé espagnole, un demi-siècle après la fin du franquisme. Et Martin Fourcade, retraité hyperactif, c'est le dernier épisode de notre série sur les sportifs de l'année.
Notre invité dans 20 minutes à 7h50, Joe Estar, rappeur et gastronome. Il vient de sortir un magazine de cuisine baptisé Five Star. On y trouve des producteurs et des cuistots passionnés et une recette dont vous allez vous souvenir. France Inter. Interdit de jeter, il faudra obligatoirement donner ou recycler.
Et c'est un changement majeur pour de nombreux secteurs. Dès demain, tous les fabricants de produits non alimentaires n'auront plus le droit de détruire leur stock d'invendus. Trois solutions donc, le don, le réemploi ou le recyclage. Il ne reste plus que quelques heures pour se mettre en conformité. On parle là des vêtements, des meubles, des produits électroniques, mais aussi de tous les produits d'hygiène. Pour cette filière hygiène beauté, les invendus représentent 128 millions d'euros par an. Alors il a fallu sacrément anticiper pour être prêt le 1er janvier, Agnès Soubiran.
Lorsque Sylvain Mérignac a pris la tête il y a 3 ans de la société Kerly Paris, il a découvert dans les entrepôts des milliers de flacons de gel douche, shampoing et autres soins capillaires, périmés parfois depuis plus de 10 ans.
Il y avait un gros travail à faire, donc on l'a fait, on l'a pris à bras de corps et nous, forcément, c'est bénéfique pour nous parce que ça nous libère aussi de la place dans l'entrepôt. Et aujourd'hui, là, depuis 3 ans maintenant, c'est devenu une coutume. Donc tous les 6 mois, on fait un point là-dessus et ça nous permet de suivre au mieux les stocks et éviter de détruire.
Parce que détruire coûte cher, économiquement et en termes d'image, alors que donner permet de bénéficier de déductions fiscales et de participer à l'effort collectif. Dominique Besançon est la déléguée générale de l'association Don Solidaire.
3 millions de Français se privent régulièrement de produits d'hygiène de base, comme du gel douche, comme du shampoing, comme du dentifrice. Vous comprenez donc que les associations que nous accompagnons ont des besoins énormes en produits de première nécessité.
Mais les bonnes intentions ne suffisent pas, notamment pour les TPE et PME. Emmanuel Guichard est le président du syndicat professionnel du secteur cosmétique.
On fait de l'accompagnement aux entreprises quasiment quotidien pour faciliter ce don et faciliter la gestion administrative qui est assez complexe.
Pour se débarrasser de leurs invendus, les entreprises peuvent aussi vendre leurs produits dans les réseaux discount en France et à l'étranger ou encore proposer les produits à leurs salariés à prix cassé.
Voilà pour les produits non alimentaire, mais dès demain, un autre changement très concret entre en vigueur pour les fruits et légumes. C'est la fin des emballages plastiques autour de certains d'entre eux. Poireaux, courgettes, concombres, pommes, poires ou encore mandarines. Mais d'autres, comme les oignons, les haricots verts ou le raisin, bénéficient d'un délai supplémentaire jusqu'en 2023.
C'est plus une confirmation qu'une surprise.
Et vu l'allure de la courbe de contamination, ça y est, Omicron est désormais majoritaire en France. Ces derniers jours, 62% des tests positif analysé présente une suspicion de ce variant et la barre des 200 000 contaminations de nouveau franchie hier. C'est donc en pleine tempête sanitaire que tant bien que mal nous fêterons le passage à 2022 ce soir comme l'impression de danser sur un volcan. Réveillons tout en prudence et sous haute surveillance. Bars et restaurants devront fermer dès 1 ou 2 heures du matin dans de très nombreuses villes. Vente et consommation d'alcool sur la voie publique interdite sur la quasi-totalité du territoire et retour du masque en extérieur dans toute ou partie d'une 50aine de départements. Bref, il va falloir faire respecter tout cela. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Les forces de l'ordre sont en alerte, même si on ne s'attend pas forcément à la foule habituelle, évidemment, d'un 31 décembre.
Pour l'instant, c'est très calme la nuit dans les quartiers sensibles, confié hier soir un magistrat dans les Yvelines, en Ile-de-France, espérons, dit-il, que ça dure. Mais les hauts responsables du renseignement territorial, eux, ont bien regardé la météo, région par région. Et c'est très doux, on le sait, ce n'est pas forcément la meilleure des nouvelles pour nous, confie l'un d'eux. Et puis, malgré les taux d'incidence record des cas de Covid, il n'y a pas de couvre-feu généralisé comme l'année dernière, rappelle une commissaire. Ou alors, de manière très ciblée, pour les moins de 16 ans, dans certaines communes, Yvelines près de Strasbourg pour éviter au moins en partie le retour des violences urbaines, les incendies de véhicules, les tirs de mortiers, de feux d'artifice contre les policiers et gendarmes mobiles dont l'agglomération alsacienne détient certains des records en la matière.
Oui, car cette reprise éventuelle des violences urbaines, c'est vraiment la principale crainte au ministère de l'Intérieur.
Oui, après deux années sous cloche ou presque, il y a eu d'importantes saisies de mortiers d'artifice et de gros pétards ces derniers mois. Mais les policiers qui font de la veille sur Internet savent qu'il y a toujours des pics de vente avant le 31 décembre ou le 14 juillet. Ensuite, ce sont évidemment les rassemblements de jeunes gens sortant de soirées privées ou de bars à 2h du matin et oubliant quelque peu de mettre leur masque qui pourrait faire monter la température d'un cran. Et enfin, les rêves partis comme il y a un an tout juste à Lieuron en Bretagne, ce qui avait provoqué de sérieux affrontements avec les gendarmes.
Emmanuel Leclerc, et rien que pour Paris et la petite couronne parisienne, 9000 policiers et militaires seront mobilisés la nuit prochaine. Alors on ne compte plus les festivités annulées ou réduites au strict minimum, boîtes de nuit fermées, interdit de danser dans les bars. Certains fêtards vont donc opter pour les karaokés, des salons privatisés pour chanter en groupe. Pas forcément l'idéal non plus d'un point de vue sanitaire. Julien Morcelli s'est rendu dans un établissement parisien où l'on assure que les gestes barrières peuvent être respectés.
Dans la box de 12 mètres carrés, lumière tamisée, petite banquette rouge et table basse pour poser les cocktails.
Vous rentrez dans la cabine et sur le pad, vous recherchez une musique.
Christophe Bartmann est le gérant de l'établissement.
C'est parti. Et là, ça s'affiche le clip et les paroles sur l'écran.
Ce soir, 70 clients sont attendus et le téléphone continue de sonner.
Vous choisissez la cabine que vous voulez, vous pouvez réserver directement sur Internet.
Cette Parisienne réveillera ici avec ses amis, d'autres viendront en famille.
Ce sont des gens entre 18 et 50 ans, parce que c'est vraiment un concept qui va à tous les âges.
Et même si l'ambiance sera à la fête, les participants devront respecter des règles strictes.
Conserver leur masque et doivent rester assis. Et si la personne qui chante se lève, c'est pas un problème. Ce qui est interdit, c'est de danser en fait à plusieurs dans la même pièce.
En revanche, pas de contrôle dans les salles, Christophe Bartmann dit faire confiance.
Quand on sort avec des amis ou avec de la famille, on évite de les contaminer, donc c'est plus sécure qu'un bar ou qu'une brasserie ou un restaurant. Une fois que vous êtes dans votre box, vous êtes que entre vous. Dans une boîte de nuit, si vous voulez, vous êtes avec 300 personnes, vous vous frôlez, il y a une promiscuité que vous n'avez pas dans des box privées.
Les employés livreront directement les boissons à l'intérieur des cabines. Pas besoin d'aller au bar, ça permettra au moins de limiter les contacts entre groupes de fêtards.
Julien Morcelli, mais pour vivre un vrai réveillon, presque comme si de rien n'était, il faut être aujourd'hui à Sydney ou à Rio, où les feux d'artifice sont bien maintenus. Au moins 1 million de personnes sont attendues sur la plage de Copacabana au Brésil. Mais dans la majorité des cas, les joyeusetés du Nouvel An seront très encadrées, hein, capacité réduite à Times Square à New York ou sur la Puerta del Sol à Madrid. Couvre-feu et restaurants fermés au Québec, on vient de l'apprendre. À l'inverse, et c'est la bonne nouvelle du jour, ça va mieux en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui allège les restrictions. Dans ce premier, le premier pays à avoir détecté Omicron, les autorités estiment que le pic de contamination et d'hospitalisation est déjà passé, sans entraîner là-bas une hausse significative des décès.
Un nouveau coup de fil Moscou-Washington cette nuit.
50 minutes d'échange entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Il a évidemment été question de l'Ukraine et chacun campe un peu sur ses positions. Le président américain prévient, les États-Unis répondront de façon résolue en cas d'invasion militaire en Ukraine. Son homologue russe avertit de son côté que des sanctions massives contre Moscou seraient, je cite, une erreur colossale. Comme chez nous, en Espagne, la période des fêtes est aussi synonyme de grands classiques à la télé. Et bien c'est à l'occasion de ces rediffusions annuelles que des téléspectateurs espagnols ont soulevé un loup. Ils se sont rendus compte cette année qu'ils voyaient une version censurée de certaines œuvres, comme La vie est belle de Frank Capra, une version remontant à l'époque de Franco et toujours pas restaurée, Mathieu de Taillac.
C'est Emilio Silva, le président de la RMH, une association qui rend hommage aux républicains antifranquistes, qui a lancé l'alerte. En regardant La vie est belle, il s'est rendu compte de l'existence d'une scène qu'il n'avait jamais vue lors des nombreuses rediffusions en Espagne. L'histoire de familles modestes qui deviennent propriétaires de leur logement grâce à une coopérative solidaire. Une scène trop subversive pour le régime, trop égalitariste sans doute, coupée par la censure du temps de Franco, et toujours pas réintégrée par la plupart des diffuseurs 46 ans après la mort du dictateur. Et en creusant un peu, on voit que la liste des classiques censurés par la dictature est longue Emilio Silva.
Ça
concerne Casablanca, Mogambo, la Dame de Shanghai, Alamo.
Dans Casablanca, par exemple, un dialogue est transformé. Dans la version d'origine, le résistant tchèque Laszlo rappelle au propriétaire du café Rick son engagement contre le fascisme en Espagne. Dans la version franquiste, cela devient... Vous avez livré des armes en Éthiopie, vous avez lutté contre l'Anschluss autrichien. Le fascisme espagnol a disparu des écrans ibériques. L'association d'Emilio Silva réclame au gouvernement qu'une commission se charge de faire l'inventaire des dommages provoqués par la censure franquiste pour rendre enfin aux œuvres leur version originale. Madrid, Mathieu de Taillac, France Inter.
Ces sportifs français qui ont fait 2021, dernier épisode de notre série des fêtes.
Et pour terminer, c'est Martin Fourcade qui a les honneurs de notre rédaction des sports. Sportif retraité, oui. Me direz-vous, mais retraité très actif, l'ancien biathlète. Près de 2 ans après la fin de sa carrière pro, le quintuple champion olympique n'a jamais été aussi présent, notamment sur le petit écran, Fanny Lechevestrier.
Alors bien sûr, ce n'est plus en tant qu'athlète. À 33 ans, Martin Fourcade le dit, la compétition ne lui manque pas.
Ce que je trouve magnifique, c'est que j'ai fait du sport pendant 15 ans pour être le meilleur au monde avec un ADN très course. Et aujourd'hui, je me retrouve à titre personnel plus du tout dans cette pratique et j'ai au contraire besoin d'être beaucoup plus contemplatif.
Mais il n'est jamais très loin non plus des terrains de sport. En février, il sera ainsi consultant télé des Jeux de Pékin pour le groupe Discovery pour commenter les exploits de champions qu'il côtoie encore pour échanger avec eux, écouter leurs doléances. Le Catalan s'est en effet porté candidat à la commission des athlètes du Comité international olympique.
Voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. On aborde des Jeux d'hiver dans une destination qui ne fait pas l'unanimité. Et je pense que si les athlètes étaient plus consultés, on n'arriverait pas à ces incohérences qu'il peut y avoir.
L'élection est prévue à Pékin, mais comme au biathlon, Martin Fourcade dégaine déjà très vite une autre envie.
J'arrive à me projeter jusqu'en 2024 avec les Jeux Olympiques de Paris. J'ai envie de pouvoir participer à cette fête du sport.
Un rôle de plus en vue pour la figure incontournable du sport français aujourd'hui, à la tête également du populaire Martin Fourcade Nordic Festival. Tout cela entre 2 sorties à ski dont il régale ses fans sur les réseaux sociaux.
Et puis en football, le passage à la nouvelle année, c'est aussi le lancement du mercato d'hiver, dès minuit. Alors il ne faut pas s'attendre à des transferts spectaculaires. Mais en France, le PSG par exemple a la quasi-obligation de dégraisser son effectif après les gros coups de l'été dernier. Messi, Ramos, etc.
Merci Alexis Morel. L'édito politique à suivre.